Bonjour à tous les Auroviliens. Aujourd'hui, je vais vous lire d'une revue qui s'appelle France-Asie, revue de culture et de synthèse franco-asiatique, de mars 1951. Alors, ce que je vais vous lire aujourd'hui, c'est le trépas de Sri Aurobindo, écrit par Kade Setna Amal Kiran. Sa signification profonde et son importance du trépas de Sri Aurobindo. Personne ne peut écrire sur ma vie, car elle n'est pas à la surface pour que l'homme la voie, a dit Sri Aurobindo quand l'idée d'une biographie définitive fut suggérée. Il est certain que, exception faite peut-être pour ses brillantes études en Angleterre et la première période de son ardente activité politique dans l'Inde, sa vie fut très profondément intérieure pour que son sens, son but et son dessein puissent être expliqués par le récit des faits extérieurs auxquels s'ajouterait un commentaire psychologique. Pour en avoir une certaine compréhension, on doit pouvoir pressentir le sens, non seulement des vastes mystères de la réalisation spirituelle traditionnelle, mais aussi de l'éblouissante immensité de cette nouvelle lumière transformatrice du monde, qu'il a appelé le supramental, et qu'il s'est efforcé pendant 40 ans de faire descendre dans sa totalité sur l'humanité souffrante. Ce qui est vrai de sa descente, de sa vie, l'est aussi de ce phénomène annoncé au monde comme sa mort. La mort de Sri Aurobindo ne peut être aussi intérieure et profonde que sa vie. Aucun yogi ne meurt au sens ordinaire du mot. Sa conscience dépasse toujours la formule du corps physique. Il est au-delà et plus immense que son enveloppe matérielle, même lorsqu'il l'habite. Son action sur l'humanité se fait essentiellement à travers un esprit libre et vaste dont la vie et la mort ne font que masquer l'immortalité pleinement consciente dans l'être infini de l'éternel. D'autant plus inapplicable est le mot « mort » au trépas d'un maître du yoga comme Sri Aurobindo. Car il est bien connu que la puissance transformatrice du supramental était à l'œuvre dans chaque cellule de son corps et qu'elle possède une efficacité non seulement psychologique, mais aussi physique. Ainsi que des centaines de disciples peuvent l'attester par son merveilleux effet curatif sur leurs propres maux, MAUX. Cette efficacité ne se limitait pas seulement à l'ashram. Les bureaux télégraphiques de toute l'Inde porteront témoignage du cliquetis quotidien des appels au secours dans diverses maladies, y compris celles dont la science désespère souvent, et aussi des messages de gratitude pour le soulagement et la guérison reçue par voie spirituelle. Non, Sri Aurobindo de yogi du supramental, descendant dans l'être physique aussi bien que dans l'être intérieur, et apportant la vie divine sur terre en plus de l'immortalité infinie de l'au-delà ne peut pas être considérée comme ayant trépassé en raison de son grand âge ou de causes purement physiques. Quels que soient les faits cliniques, ils doivent receler signification entièrement concordante avec la vie hautement significative et immensément ultra-physique dans sa réalisation spirituelle. En novembre 1950, les prédictions d'un astrologue Marat lui furent lues. Les époques marquantes étaient les années 1950 et 1964. Sri Aurobindo traversa une crise physique en tombant et se fracturant le fémur. 1950, avec l'indication d'une possibilité de sa disparition volontaire, marquait encore une nouvelle période de 12 ans. Et bien que l'astrologue ne prît pas très au sérieux que sa prédiction d'une mémorable 93e année, Sri Aurobindo ne sembla pas considérer ses déclarations comme entièrement fantaisistes. Il dit « Cet homme a saisi quelques vérités, comme on lui demandait, la prédiction concernant le retrait de votre corps cette année n'est-elle pas une absurdité? Vous n'allez certainement pas nous quitter. Avec sa magnifique absence de précipitation, vint la calme contre-question en deux mots mystérieux. Pourquoi pas? Mots des plus surprenants pour tous ceux qui pouvaient espérer qu'une longévité inhabituelle due à une descente croissante du supramental faisait partie du programme du maître. Une autre joyeuse surprise fut pleine d'un étrange pressentiment. À chacun de ceux qui s'occupaient de lui ou qui travaillaient dans sa chambre, il donna un signe de tendresse personnelle. Sri Aurobindo n'était pas précisément une nature démonstrative. Il avait la subtile douceur d'un éther enveloppant. Et bien que son extrême compassion fût évidente à la fois dans le travail qu'il avait entrepris et dans les nombreuses lettres écrites à ses disciples en difficulté, l'expression physique de son imposante attitude paternelle était rare. Un bref instant, il eut envers ses assistants pour chacun d'eux, d'une façon différente ou à une occasion différente, un geste marqué d'affection, comme s'il avait souhaité qu'ils sachent qu'avant qu'il ne soit trop tard, combien il appréciait leur service. Ce geste doux, tout bienvenu qu'il fût, sembla contenir la vague et poignante possibilité d'un départ. Une troisième surprise fut une remarque qui tomba étrangement dans l'oreille du disciple chargé de noter tout ce que Sri Aurobindo dictait lettre ou livre. Le maître avait travaillé sur Savitri pendant plusieurs années. Révisant le texte écrit précédemment et y ajoutant constamment, augmentant les significations, enrichissant l'histoire, étendant le symbolisme, entrant de plus en plus intensément dans la vision des plans surhumains d'existence et de conscience auquel il avait accès, respirant avec un sentiment de plus en plus profond les vastes rythmes des mouvements des dieux qui lui étaient devenus très familiers. Hors de quelques silences insondables, il tirait des phrases d'or et des lignes apocalyptiques. Il s'arrêtait comme s'il avait des éternités à gaspiller ou poursuivait, dans un splendide mouvement d'images occultes et de descriptions révélatrices, révisait ce qu'il avait écrit avec un œil soucieux du moindre détail de ponctuation ou de rythme, et regardait en avant avec une vaste inspiration qui demeurait pourtant méticuleuse. Majestueux travail fait à loisir, sa vitrine fut conçue avec un peu de cet antique tempérament qui jouit des constructions massives comme le fut le tempérament des auteurs du Ramayana et du Mahabharata, qui embrassaient toute la vie et la pensée humaine dans leur cadre spacieux et entrelaçaient les travaux du monde cachés des dieux, des titans et des démons avec les activités terrestres. Le souffle de Sri Aurobindo était en quelque sorte cosmique. Il désirait que son poème sculpte d'une façon multicolore et multilatérale dans la musique des mots les secrets gigantesques du yoga supramental. Plus de 55 000 vers furent jugés nécessaires pour enchâsser la vision unique, l'expérience sans parallèle, une patience aussi immense que cette vision et que cette expérience caractérisa toujours les relations de Sri Aurobindo avec son poème. Ainsi, la version sur laquelle il travaillait était la 11e et la 12e. Un temps illimité semblait mis à sa disposition quand il s'asseyait pour dicter des lignes comme celles qui traitent de l'image centrale du poème. Ainsi que dans une danse mystique et dynamique, une prêtresse d'extase immaculée, inspirée et dirigée par la voûte révélatrice de la vérité se meut dans quelques cavernes prophétiques des dieux. Un cœur de silence dans les mains de la joie, habité avec de riches pulsations créatrices, un corps pareil à une parabole de l'aube, et qui semblait la niche d'une divinité voilée ou la porte d'un temple d'or sur les choses de l'au-delà. Puis, brusquement, 2 mois avant le fatal 5 décembre 1950, Sri Aurobindo surprit son secrétaire en disant: il me faudra bientôt terminer Savitri. Naturellement, ceci ne précisait pas la date de son trépas, ni ne prouvait le désir d'un départ, mais déjà la lutte sinistre dans laquelle il s'engageait et qui s'est terminée à cette date-là se dessinait comme une possibilité dans l'avenir proche. Et un certain fait concernant Savitri peut servir ici d'excellent symbole. bien qu'il s'efforçait de finir rapidement son poème épique, celui-ci resta inachevé. Il devait se composer de 12 livres et d'un épilogue. Or, bien que l'épilogue fût écrit, au moins dans la première rédaction, et que le livre des commencements, celui du voyageur des mondes, celui de la mère divine, celui de la naissance et de la quête, celui de la vie, celui de l'amour, celui du destin, et plusieurs autres existassent, soit déjà imprimés, soit à l'état de manuscrit. Le seul livre que nous n'ayons sous aucune forme, sauf une courte esquisse écrite il y a des années et qui devait être révisée et incorporée à tout un plus vaste, est le livre de la mort. Ce fait est des plus éloquents, car il en est comme si ce livre ne pouvait avoir été écrit avant que Sri Aurobindo n'en fût venu aux prises avec le spectre macabre, comme s'il avait dû attendre quelques extrêmes crises de son existence corporelle avant de pouvoir aborder cette partie de sa légende symbolique. Tout contribue à prouver que ce qui est arrivé au petit matin de ce jour de décembre n'a pas uniquement été une catastrophe physique, un malencontreux accident à la vie divine sur Terre, mais un redoutable jeu librement accepté, une terrifiante épreuve subie dans un but précis. Une bataille affrontée avec les yeux ouverts dans tous ses détails meurtriers et engagée avec la possibilité explicite de perdre l'instrument corporel le mieux doué et le plus glorieux qui fut forgé par l'esprit éternel manifesté. Mais cela ne répond pas encore à la question. Quelle pouvait être la raison de cette dangereuse expérience? Il est douteux qu'une réponse de l'intelligence seule puisse être entièrement satisfaisante. Peut-être aucune réponse ne doit-elle être cherchée. Et nous devons nous contenter de la conviction que Sri Aurobindo, de sa propre volonté, fit ce qu'il jugea le plus utile à l'avancement de son œuvre. Et nous pouvons et pouvons-nous nous en remettre à Mère, l'associée de Sri Aurobindo, dans cette œuvre, pour dévoiler dans ses développements concrets du yoga intégral dans l'avenir les raisons suprêmes de la volonté du maître. Néanmoins, le maître lui-même n'a jamais découragé les efforts de la pensée pour naissance intérieure directe ou toute autre prise de conscience intuitive de l'inconnu était une chose où il encourageait, et si par un contact avec sa propre philosophie lumineuse, nous pourrions arriver à une lueur mentale des intentions du supramental de Sri Aurobindo, nous ferons ce que lui-même, d'un au-delà caché à nos sens grossiers, ne refusera peut-être pas d'approuver. Voilà. Alors aujourd'hui, je termine le trépas de Sri Aurobindo, écrit par Amal Kéran et traduit en français de l'anglais. Le chapitre se nomme exactement le trépas de Sri Aurobindo, sa signification profonde et son importance. Je remercie infiniment pour cette merveilleuse lecture Sri Aurobindo et Douce Mère, ainsi que Amal Kéran. Merci Priya, Ganga Lakshmi, Savitri Bhavan, House of Mother Agenda.
This is Auroville Radio. Voices from the City of Dome.